Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui.
Bonjour, c'est Cinérama, émission de cinéma qui aujourd'hui va parler eh bien, de films qui mettent en avant les femmes. Bonjour Manu.
Bonjour.
Toi, tu as vu deux films.
Deux films réalisés par des femmes d'ailleurs, hein, Marie-Francine de Valérie Le Mercier et Drôle d'oiseau d'Élise Girard.
Et toi Marine, tu as vu au moins un film réalisé par un homme et qui parle des femmes.
Alors moi en fait j'ai vu deux films faits par des hommes, mais c'est pas grave. Et donc le nouveau Philippe Garrel qui s'appelle L'amant d'un jour, qui est passé à Cannes, et un tout premier film de Andrew Stigall qui s'appelle Departure, qui est un très beau premier film.
Et il sera question des femmes aussi avec Wonder Woman qui sort le 7 juin. Film forcément qui va remplir les salles et bien c'est un film réalisé par une femme qui présente un super-héros féminin et c'est pour ça que j'y suis allé avec une jeune femme qui est plutôt féministe et j'ai voulu bien savoir ensuite à l'issue de la projection voir un peu eh bien qu'est-ce qu'elle pensait du regard ou de la représentation de la femme à l'écran. Et puis on passera aussi un petit peu de temps avec David Lynch puisqu'il y a deux de ses films qui sont ressortis dernièrement et ce sera l'occasion de jouer un blind test. On écoutera 5 extraits de ce grand maître du cinéma. Et puis si on a le temps, pour bien ternir un peu l'ambiance, on parlera d'un vieux monsieur, c'est Churchill.
Et maintenant ?
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Tu te considères plutôt comme mutine, romantique, femme-enfant ou possessive ?
Mais romantique, ma chérie, ça mange pas de pain.
Ok, bon allez, un pseudo.
Pourquoi faire ?
Bah, maman, tu vas quand même pas mettre Marie-Francine.
Et pourquoi ?
Bah, c'est pas très glamour.
Bah non.
Je te prête le mien sur le bon coin si tu veux. Omelette 007, ça fait un peu James Bond Girl et fille qui sait se faire cuire un œuf.
Je crois que le plus simple, ce serait que tu me mettes sur le bon coin directement. Ma fille, ayant très peu servi, cheveux véritables, à retirer sur place. 50 euros. 100 avec la montre en or de sa communion. Et le couteau électrique qui marche plus.
Alors l'extrait est un peu trompeur puisque le film n'est pas sur la recherche particulièrement d'un homme. Hein. Elle va le trouver d'ailleurs très très vite. Alors le titre sonne déjà un peu vieille France quand même, Marie-Francine. Hein. Valérie Le Mercier, hein, c'est une comédienne intéressante, hein, drôle et pétillante, qui n'a malheureusement jamais su s'imposer vraiment comme réalisatrice, si l'on accepte son premier essai, Le Gentiment Décalé et Vintage Quadrille. Alors on peut même avancer qu'elle s'était complètement perdue avec le précédent, le très raté 100% Cachemire, un peu dans le sillon des comédie néo-beauf, à peine plus regardable que Les Infâmes Navets de Danny Boone ou Christian Clavier. Alors, bonne nouvelle, elle remonte d'un cran, gomme la vulgarité et l'humour bas du front, et tente une rom-com nostalgique et piquante, un œil du côté de l'univers d'Étienne Chatiliez et l'autre tourné vers le passé en direction des classiques américains des années 50 que nous concoctaient des cinéastes comme Billy Wilder ou Ernest Lubitsch. Alors, le sujet fait un petit peu peur au départ. Hein. Marie-Francine, la cinquantaine, elle se fait larguer par son falot de mari, interprété par Podalides, qui la quitte pour une jeunette de 30 ans. Alors, comme si ça ne suffisait pas, elle se retrouve licenciée et donc à la rue. Donc, seule solution temporaire, retourner chez ses parents, issus de la petite bourgeoisie, qui continue à infantiliser leur fille. Alors, pour subvenir à ses besoins, elle monte une boutique de cigarettes électroniques sous la pression de ses parents. Là, elle va rencontrer Miguel, qui est exactement dans la même situation. Alors, bien sûr, ce fin cuistot n'ose pas lui dire la vérité, pression sociale oblige, mais l'idylle avance entre quiproquo, maladresse et tendresse. Voilà. Rien de neuf sous le soleil terni de la comédie hexagonale, mais au moins, Valérie Le Mercier ne prend pas le spectateur pour un demeuré et concocte un petit film charmant, parfois drôle et assez bien senti sur les relations humaines. Les seconds rôles sont bien écrits, hein. Les situations embarrassantes nous amènent vers un comique de situation du plus bel effet dans ses meilleurs moments, mais l'ensemble manque malgré tout de rythme et surtout de méchanceté, comme si la réalisatrice, dans son désir de bien faire, avait peur de déplaire. Alors c'est un peu cette vision consensuelle de la petite bourgeoisie qui déçoit, car il y avait un peu matière à bousculer les lignes, à se livrer un gentil jeu de massacre sur l'hypocrisie familiale, mais aussi sur cette pseudo-stabilité professionnelle qui peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Alors cette part anxiogène, fondement à mon avis des meilleures comédies, est à peine esquissée. On sent que Valérie Le Mercier est hésitante hein, pendant une bonne moitié du film, entre regard bienveillant, satire légèrement virulente, mais Au bout de 45 minutes, elle décide de respecter à la lettre toutes les conventions de la comédie romantique. Dans le genre, il faut bien l'avouer, c'est plutôt réussi, d'autant que les personnages sont crédibles, voire émouvants, notamment un surprenant Patrick Timsit, qui, une fois n'est pas coutume, est arrivé à ne pas m'énerver. Il est vraiment très très bon. Dans le rôle des parents, Philippe Lodenbach et la toujours énergique Hélène Vincent, révélée il y a 30 ans par Châtillies d'ailleurs, elles sont vraiment excellentes. Alors bref, Marie-Francine, c'est un film, on va dire, charmant, léger, très vite oubliable, qui passe malgré tout à côté de son sujet, la dépression des quinquagénaires qui se retrouvent seuls. Alors dans le même registre, moi je pensais au magnifique Dans la cour, qui était très largement supérieur.
De Pierre Salvadori.
Exactement. Et bon, bah, inutile de dire sinon qu'il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène, hein, voire pas du tout. Et je dirais que ce qui m'a le plus amusé dans le film, c'est que lorsqu'elle monte sa boutique de cigarettes électroniques, le premier réflexe qu'elle a, c'est d'acheter des paquets de cigarettes et de fumer. Et j'ai trouvé que ça, que c'était plutôt marrant. Bon, c'est un peu à répétition, mais c'était assez amusant.
En tout cas, ce film fait écho aussi à un autre, Aurore de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui. Enfin voilà, l'histoire d'une femme de 50 ans. Alors une comédie un peu plus dramatique que celle dont tu viens de parler. Voilà. Et qui est toujours sur les écrans et qui fonctionne très très bien.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Je voulais sauver le monde. Cet endroit magnifique. Mais plus on s'en approche, plus on voit la noirceur qui l'habite.
C'est Wonder Woman. Eh oui, mais... Ça fait rire Marine, mais c'est Wonder Woman de Patty Jenkins, film qui sort le 7 juin et qui est promis un grand succès avec Gal Gadot, Chris Pine et Connie Nielsen notamment. Et ce qui était intéressant, je vais pas en faire la chronique du tout, mais c'est un film réalisé par une femme sur une femme super-héros. Et cette version de Wonder Woman, je me suis demandé si elle convenait aux femmes et plus précisément à celles qui ont des élans féministes. J'y suis allé donc avec Alice, une jeune femme qui a ses élans féministes. Et à la sortie du film, eh bien, j'ai pu demander ce qu'elle en avait retenu. On écoute.
J'ai un avis assez partagé, quoique plutôt positif. Le film commence par la vie des Amazones sur leur île cachée. Elles font toutes 1m80, 90, 60, 90. Donc quand même, c'est une vision assez biaisée de la femme. En tout cas de sa représentation, elle répond à des stéréotypes de beauté actuels. Mais il y a un côté assez grisant dans le fait qu'elle se réapproprie totalement les armes et leur corps pour l'art de la guerre. Donc la première scène de bataille était pour moi assez plaisante, alors que je ne suis pas spécialement sujette aux scènes de guerre.
Quelle est votre mission ?
Mettre fin à la guerre.
Quelle guerre ?
La guerre qui mettra fin à toutes les guerres.
En revanche, la rencontre avec le premier homme va donner un autre ton, assez ironique sur les rapports hommes-femmes et les rapports genrés, parce que vont commencer à se dérouler quelques remarques ou quelques questions un peu naïves de la part de l'héroïne sur les hommes et sur les rapports qu'ils peuvent entretenir, notamment sur le mariage et la monogamie. Ça, c'est assez drôle, assez fin. Également sur la sexualité. Wonder Woman fait clairement référence à Clio, donc la muse de l'histoire dans la mythologie grecque, en disant que les femmes, autant pour la procréation, ne peuvent pas se passer des hommes, autant pour le plaisir, peuvent très bien se passer des hommes. Donc là, il y a quand même un petit côté très actuel, hein, sur la question de la sexualité et de la réappropriation du corps des femmes par les femmes. Bon, bien qu'on reste quand même dans une vision du monde très hétéronormée, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question d'amour lesbien.
Qui que vous soyez, vous courez un danger plus grand que vous le pensez.
Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que des innocents perdent la vie.
Après, concernant l'actrice, elle est très belle. La réalisatrice joue sur la sensualité de l'actrice. C'est un peu la femme parfaite. Il faut dire que l'identification à cette héroïne est quand même assez compliquée. Hein. À moins de posséder des jambes d'1m10, c'est compliqué.
Comment une femme peut-elle se battre en portant ça ?
Il y a une scène que je trouve assez intéressante, c'est la scène où il faut rhabiller Wonder Woman. C'est pas possible qu'elle reste avec sa petite jupette qui attirait trop les regards. Donc elles vont, avec la secrétaire, dans un magasin d'habits. Et là, elle essaie tout un tas d'habits. Donc, elle voit un corset, elle demande à quoi ça sert. On lui dit, c'est pour avoir un ventre plat, pourquoi faire ? Et la question est pertinente, pourquoi faire ? Ensuite, elle essaie tout un tas d'habits. Et là, à son grand dam, elle ne peut se battre avec aucun de ces habits qui sont attribués aux femmes. Et donc, je trouve cette scène intéressante puisqu'il est question du corps des femmes qui ne peuvent pas faire les mouvements qu'elles désiraient faire. Et c'est toute la question de l'emprisonnement des femmes par le patriarcat.
Qui est cette femme ?
C'est ma secrétaire, en général. Et c'est une excellente secrétaire.
Effectivement. Voilà, donc c'était l'occasion de parler de la représentation de la femme dans ce film Wonder Woman de Patty Jenkins, qui est sur les écrans le 7 juin. On passe sans transition à Philippe Garrel.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Oui, on passe à l'amant d'un jour. En fait, non, mais je vais pas y dire l'amant d'un soir, mais comme à peu près tous ces films, en fait, ont un peu les mêmes noms. Donc c'est pour ça, du coup, les titres sont interchangeables. Bref. Un soir, Jeanne frappe à la porte de son père. Elle vient de se faire quitter par son petit ami. Son père l'accueille naturellement chez lui, tout en la prévenant qu'une autre femme habite déjà dans son appartement, Ariane. C'est une de ses étudiantes. Il est prof de philo à la fac et elle a donc le même âge que sa fille. Plutôt que de se sentir en rivalité avec cette nouvelle femme, Jeanne s'en fait une confidente, trouvant elle une alliée qui lui permet de reprendre goût à la vie. Une étrange cohabitation commence dans laquelle chacun, finalement, trouve son compte.
La première fois que tu m'as regardée, tu te souviens ?
Non.
Tu faisais ton cours de philo. Et quand t'as dit la philosophie n'est pas un divorce avec la vie, et tu m'as regardée. Tu t'es arrêtée juste en face de moi. Je sais pas, je me suis sentie complètement toute nue. Et je suis tombée amoureuse de toi. Papa ? C'est quoi la fidélité ?
Certains sont fidèles à des choses qui n'ont aucune importance pour d'autres.
Oui, mais par exemple, ça fait combien de temps que t'es avec mon père ? Ça fait 3 mois. Ça te gêne ? De quoi ? Je sais pas qu'on a le même âge, toi et moi.
Oui, je crois bien que je l'aime.
Et tu l'aimes pour ça ? Parce qu'elle a un grain. Les hommes, ils trompent sans préavis et ça les dérange absolument pas. Mais il y a un truc qu'ils supportent pas, c'est que les femmes fassent pareil. Donc au final, il n'y a qu'une solution, c'est de faire pareil.
J'ai été comme toi longtemps. J'ai fait souffrir des femmes qui ne méritaient pas ça.
Va falloir que je fasse gaffe.
Je te le conseille.
Alors, ce que je préfère chez Philippe Garrel, en dehors de son fils Louis, c'est la longueur de ses films. Quel bonheur que de voir un film d'1h15, comme c'est le cas pour L'amant d'un jour, comme c'était le cas pour L'ombre des femmes, son précédent film. Quel plaisir que de voir, en un temps si court, un réalisateur construire une intrigue, l'étayer et lui trouver une conclusion. Alors, les thèmes habituels de sa filmographie traversent à nouveau ce film. Hein. L'amour, la fidélité, surtout le désir, évidemment. Comment aimer, comment durer, il parvient à décliner ses sujets, déjà maintes fois abordés dans sa filmographie, selon une énième variante et à leur apporter une nouvelle lumière. Alors le seul souci étant peut-être simplement que Garrel ne sort jamais du décor qu'il connaît, à savoir petit intérieur parisien filmé très joliment en noir et blanc et conversation existentielle entre gens de la capitale, tous très blancs et trop bien coiffés. Mais tout en affichant un côté désuet assumé, le film est d'une modernité folle. Il parle d'amour mais il inverse les stéréotypes. Ce n'est pas ici l'homme adulte qui est assujetti à ses désirs, mais la jeune femme. Le film prend ainsi un malin plaisir à dépeindre les affres des sentiments sans jamais être là où on l'attend. Garrel, qui excelle habituellement dans un cinéma extrêmement pudique, se confronte ici davantage à la chair et c'est très réussi. L'amant d'un jour est un film à la fois cru et doux, fort et léger, qui jette sur ses personnages un regard bienveillant mais lucide. Alors il faut dire que Philippe Garrel s'est bien entouré, puisqu'il s'est fait aider pour son scénario de 3 autres auteurs. Dont Jean-Claude Carrière tout de même. Et côté comédien, eh bien, il révèle tout simplement sa fille Esther Garrel, qui est incroyable aux côtés de Eric Caravaca. L'amant d'un jour, c'est vraiment à voir. Donc voilà, à part si vous êtes allergique aux gens qui parlent d'amour en fumant des cigarettes. Donc c'est vraiment à voir. En plus, ça ne vous prendra qu'1h15 de votre vie, quoi.
Et on va avoir affaire donc à la fille Garrel maintenant.
Oui, mais alors vraiment là, elle m'a énormément surprise. J'étais un peu mitigée. Je l'avais déjà vue jouer chez son père. Et là, vraiment, dans ce film, elle est bluffante. Elle est incroyable.
On va maintenant jouer avec le blind test spécial David Lynch.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Les deux films, notamment Eraserhead, Twin Peaks, sont à nouveau eh bien, dans les salles. C'est l'occasion pour nous eh bien, de ne pas en parler, mais de jouer à un blind test où on va essayer de reconnaître donc, des films de David Lynch. Alors, c'est du facile, c'est simplement pour montrer eh bien, l'univers un peu singulier et finalement les différents films de sa filmographie. Premier extrait facile.
Docteur Yue, avez-vous des informations sur les vers de la planète Arrakis ?
J'ai obtenu un livre bobine sur un petit spécimen qui ne faisait que 125 mètres de long.
Seulement ?
On a pu observer certains vers mesurant environ 450 mètres dans le désert profond. Mais nous vivons loin des sables à Arrakis. La ceinture désertique et la zone polaire australe sont frappées d'interdiction.
Comment les Fremen survivent-ils là-bas ?
Nous en savons très peu sur les Fremen. Ils vivent dans le désert profond et un petit nombre dans les villes. Leurs yeux sont bleus sur fond bleu.
Ah, leurs yeux. Oui. Leur sang est saturé par le mélange qu'ils prennent en abondance.
Quel est ce mélange ? Vous le saurez en regardant...
Dune !
Eh oui, ça c'était facile. David Lynch avait fait un premier montage de 4 heures qui a fortement déplu au producteur qui en réclamait 2 heures. Voilà. Donc
c'est,
il a dû...
c'est le plus mauvais film de Lynch. Hein. C'est son seul mauvais film d'ailleurs.
Deuxième extrait.
Avec les pièces et la main-d'œuvre, le total se monte à $247. Quoi.
Je trouve que l'addition est un peu lourde pour un travail léger. Vous ne trouvez pas ? Je n'ai que les yeux d'un vieillard, mais... C'est des pneus neufs, ça ?
Bon, écoutez, ce sont des pneus de récupération, mais les sculptures sont bonnes.
Mes amis, vous me faites payer pour du bon ou pour du neuf ?
Thorvald,
là, on peut vous faire un petit prix.
Eh bien, je crois que la réduction devrait être d'une trentaine de dollars. Votre stylo est du même avis.
C'est passionnant.
C'est une négociation, Marine. C'est une négociation, mais importante parce que c'est quoi le film ?
Une histoire vraie.
Voilà,
l'histoire
c'est une histoire
du
vraie.
Vieux monsieur qui part...
avec sa tondeuse.
Avec sa tondeuse,
voilà,
ouais.
À tondeuse à gazon, donc il est question de cette tondeuse. Et tout au long du film, eh bien, il est obligé de négocier parce qu'il a très peu d'argent. Et donc ça, c'était assez important parce que ce n'est pas la première fois qu'il négocie dans ce film. Film, pour ma part, j'ai été assez étonné. J'ai mis longtemps à le voir. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit... Mais, quand même, quelle réussite.
Enfin, j'ai trouvé ça, c'est très très bien, c'est très très curieux, très simple.
Du début à la fin. Ouais. Donc, une histoire vraie, sortie en 99.
Oh, Franck, voilà une bonne surprise et tu as amené tes amis. J'adore les surprises. Prends un siège. Quelle suavité, tu es un garçon rare, tu sais, tu es une sorte de miracle. Tu veux une bière ? Avec joie, Franck. Darling. Darling, tu nous apportes des verres. Je veux boire une bière avec Franck. Fais vite, mais asseyez-vous donc.
Cher Ben, ça va chez toi ?
Bien, très très bien. Et chez vous ?
Foutrement bien. Foutrement bien.
Facile aussi, hein, Manu.
Bah, c'était Blue Velvet. Hein.
Film de 86, voilà, et on écoutait bon, la version française de Dennis Hopper, mais plutôt bien fichu. Voilà, je me pose si on raconte l'histoire de Blue Velvet, c'est déjà un film à énigmes, voilà. Et on va en écouter un autre extrait d'un film à énigmes.
Je veux que tu te remettes au boulot demain au studio. De toute façon, tu voulais remplacer l'actrice principale. Auditionne pour le rôle le plus de filles possible. Quand tu verras la fille qu'on t'a déjà montrée ce matin, tu diras, c'est elle, c'est la fille. Le reste de la distribution, ça dépend de toi. Mais le premier rôle féminin, le choix de l'actrice qui jouera ce rôle-là, c'est pas de toi que ça dépend. Après ça, tu me reverras seulement une fois. Si tu te conduis bien, ou bien deux fois, si tu te conduis mal. Bonsoir.
Voilà, c'est facile ça aussi.
Je crois qu'elle s'est mal conduite, non ?
Non, alors c'est le réalisateur. C'est le réalisateur qui rencontre le cow-boy.
C'est Mulan Drive.
C'est Mulan Drive, voilà, avec ce cow-boy qui explique, parce que ça c'est un gimmick qui revient dans le film, This is the girl, voilà, c'est plus le réalisateur qui a la main mise sur son film, on lui impose une fille, une actrice, voilà. histoire d'amour hein, dans la cité des rêves, enfin on sait pas trop, en tout cas un gros film à énigme sorti en 2001, prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Dernier extrait.
Cooper, je te présente en revenant, Philip Jeffries, tu as dû en entendre parler à l'école des cadres.
Je vous le dis tout de suite, il n'est pas question de parler de Judy, je refuse d'entendre un seul mot sur Judy, un seul, je refuse de la mêler à cette affaire.
Gordon,
je sais, Cooper.
Qui croyez-vous qu'il soit, celui-là?
Écoute, t'as pris sur la tranche, t'as pas arrangé.
Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, Albert? C'est mon agent spécial, Dale Cooper. Pour l'amour du ciel, Jeffries, où étiez-vous passé? 2 ans qu'on ne vous a pas vu. 2 ans.
Bien sûr, je vais tout vous dire. Mais je n'ai guère de temps. Oh, mais croyez-moi, j'ai bien suivi. C'était un rêve. Et nous vivons dans un rêve. Au-dessus d'un supermarché.
Le monde parallèle, ça a été trouvé. C'est
Twin Peaks.
Firewalk ouais. With Me, donc c'est le c'est préquel le film, de la série sorti en 92. Et c'est précisément ce film avec Eraserhead, donc un des premiers films, premier long métrage de David Lynch, qui ressort sur les écrans français. Ainsi s'achève le blind test spécial David Lynch.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Drôle d'oiseau est un drôle de film surtout, hein, désuet et anachronique, hein, viré un peu déambulatoire dans un Paris, non pas de carte postale, mais cinématographique, où la réalisatrice convoque les fantômes de la nouvelle vague, cite les classiques de la comédie américaine tels que « Chérie, je me sens rajeunir ». Alors on y retrouve la fraîcheur absurde des premiers Godard, tels qu'une femme est une femme, l'écriture concise et précieuse d'un Romère, et l'humour subtil d'Owarox. Alors des références évidentes, un brin scolaire, mais jamais appuyé. En 1h10... Et là, elle fait plus fort
que Garel.
Élie Girard raconte une histoire toute simple, très tenue, dans un style original et éthéré.
Paris est grand, mais moins que je ne le pensais. On peut aller partout à pied si on a le temps et pas grand-chose à faire. J'ai l'impression que les journées passent au ralenti et les nuits à toute vitesse. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme lui.
Il a quel âge ? Ah oui, quand même.
Il lui a dit tu, ils se sont dit non, puis se sont tus.
Quelquefois la vie a plus d'imagination que nous.
Viviane Dolman, une jeune femme un peu gauche, débarque à Paris. Alors, en attendant de pouvoir se loger, elle s'est installée chez une amie. Dans un café, elle lit une annonce concernant un emploi dans une librairie et un studio. Elle rencontre alors Georges, de 50 ans, son aîné, qui tient la boutique. Il est russe, râleur, misanthrope, mais ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Un amour impossible et platonique, un peu hors du temps. Alors en parallèle, le passé militant du vieil homme désabusé le rattrape. Alors drôle de titre aussi, hein, qui désigne aussi bien ce couple insolite, mais aussi ces mouettes qui se scratchent au sol pour des raisons mystérieuses. Ce qui nous vaut d'ailleurs des incursions burlesques assez étonnantes et complètement décalées par rapport au reste du film. Ce second long métrage d'Élie Girard, après le semi-autobiographique Belleville Tokyo, alors, possède un charme fragile assez rare dans le cinéma français. N'ayons pas peur de le dire, cette romance atypique à l'émotion contenue, au point de paraître un peu raide parfois, affiche fièrement un côté snob, on va dire élitiste, dans son approche très littéraire du cinéma. La voix off peut irriter tant elle fuit le naturel pour réactiver une certaine poésie de la langue. L'approche minimaliste et rigoureuse de la mise en scène n'est pas sans rappeler l'univers d'un Hong Sang-soo, sans les effluves d'alcool et les dérives sentimentales, hein, ce qui est un peu dommage. Mais Élise Girard a du talent et elle est très bien entourée. Le travail de Renato Berta, chef-op des derniers Philippe Garel, d'ailleurs. Et oui, comme quoi, hein, tout est lié, hein, est magnifique. Il filme un Paris irréel et intemporel sans sombrer dans les clichés. Alors surtout, la réussite mineure de cette œuvre futile mais charmante est due en grande partie à son casting. Déjà, on éprouve un certain plaisir à voir Virginie Ledoyen, un peu absente des écrans depuis quelques années. Lolita Chama est irrésistible et elle a de qui tenir puisque c'est la fille d'Isabelle Huppert. Mais la véritable raison pour laquelle je me suis déplacé pour voir ce petit film tient à la présence d'un acteur culte, Jean Sorel. Mais qui est Jean Sorel ? Alors, je pourrais passer des heures à parler de sa carrière passionnante. Il est pourtant relativement inconnu du grand public. Il fut longtemps comparé à un Alain Delon du pauvre. Alors, un jugement injuste quand on sait qu'il aurait dû avoir ou pu avoir le rôle d'Alain Delon pour Le Guépard s'il n'avait pas raté l'audition. Alors, Sorel a eu une carrière en dents de scie, mais aussi assez riche et féconde. Il débuta chez les plus grands, notamment Mauro Bolognini, Visconti. On l'a aperçu aussi chez Téchiné, Benoît Jacquot, Ciné Lumet ou Paul Vecchiali. Mais enfin, c'est surtout les amateurs, puisque là, pourquoi je m'intéresserais autant à un acteur de cinéma bis italien qui le connaissent pour avoir joué dans énormément de giallo des années 70, dont Le Venin de la Peur, de Perversant Story de Fulci, Je suis vivant, etc. Alors, une vraie légende, hein, ce bel homme qui est passé à côté de la nouvelle vague, au grand regret de l'acteur et de certains cinéastes. Élise Girard l'a bien compris, elle ne l'emploie pas du tout au hasard. Et à 83 ans, il est tout simplement magnifique. Il a une classe que ne possède plus Alain Delon.
Et il n'a pas viré réactionnaire à 40 ans, lui.
Je ne sais pas, peut-être, on n'en sait rien. Hein. Mais on se dit surtout que le temps rétablit certaines injustices.
Merci, Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Et on passe à Departure. Le jeune Elliot et sa mère, tous deux anglais, reviennent dans leur maison secondaire dans le sud de la France. La cellule familiale est alors en pleine implosion. Ses parents se séparent et l'adolescent doit aider sa mère à vider cette maison qui symbolisait avant leurs vacances. Il rencontre Clément, un adolescent tourmenté qui fait lui aussi face à des problèmes familiaux. Et cette rencontre va pour lui et sa mère marquer le début de profondes remises en question.
We live in the house by the river.
It's like a holiday house.
Ok, cool, moi c'est Clément.
Elliot.
Departure arrive en France auréolé d'une multitude de prix. De Cabourg à Dinard, en passant par le Festival du Marais, oui, car il y a un Festival du Marais, ce premier film de Andrew Stigal n'a jamais laissé indifférent et pour cause, il signe l'avènement d'un cinéaste. Plein de poésie et de lumière, il parle de l'éveil des sentiments à travers plusieurs personnages très intelligemment écrits et interprétés. Film initiatique sur fond de campagne française, dans l'Aude précisément, Departure fait évoluer les désirs de ses personnages en harmonie avec la nature qui les entoure et c'est plutôt réussi. Le film réussit à aborder divers sujets assez casse-gueule, tout en gardant une légèreté aérienne. Il est quand même question de divorce, d'homosexualité refoulée, de dépression, de cancer, de deuil, sans que jamais la mise en scène ne s'adonne au pathos. C'est simplement beau, émouvant, pas dépourvu d'humour pour autant. Andrew Stigal fait preuve pour ce premier film d'une étonnante maturité. Et puis l'autre atout de Departure, ce sont ses interprètes. Le film est entre autres porté avec charisme et délicatesse par le jeune Alex, l'auteur que l'on avait notamment vu dans Imitation Game ou encore dans la série Black Mirrors. Et puis pour ce qui est de la forme, eh bien, tout est très maîtrisé, contemplatif, pensé dans les moindres détails. Alors oui, à force de plans sur les feuilles mortes, sur le soleil qui se couche et sur les gouttes d'eau qui tombent, on peut finir par trouver que la mise en scène n'est pas élégante mais un peu chichiteuse. Mais bon, tout dépend si vous avez un cœur ou pas, quoi. Moi, je vous le conseille quand même. Tout dépend si vous êtes un peu sensible. Voilà. Non, c'est un très joli film. Au soleil, à la lumière, à cette mise en scène qui est très élégante et très sensible.
On passe à la suite.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on va prendre 2 minutes pour parler de Churchill. Un film qui parle évidemment de Churchill, le premier ministre britannique. Alors c'est 48 heures avant le jour du débarquement. Il se trouve que Churchill s'oppose à ce débarquement allié, mené essentiellement par les généraux Eisenhower et Montgomery. Et bon, ça c'était peut-être une période méconnue, en tout cas me concernant. En revanche, ça prend quasiment tout le film. Après, on voit effectivement l'homme, parce que c'est tout de même un biopic, donc on le voit, les rapports qu'il peut avoir avec sa femme et son entourage. Mais l'ensemble reste poussif. Hein. Côté réalisation, c'est un peu trop voyant. On remarque des séquences très étonnantes soignant des premiers et seconds plans, des flous, des mouvements de caméra. Mais cela n'apparaît que comme un ensemble de solutions pour faire passer l'attente. Si dans l'image, on essaie de nous en mettre plein la vue, la musique est omniprésente, privilégiant alors deux instruments, le piano et le violon, selon que l'homme est blessé ou vaillant. Churchill est un biopic qui semble survoler son sujet. Son intérêt est de nous montrer une période alors importante de l'histoire du XXe siècle, avec ses enjeux. Son défaut est de rabâcher sans cesse les mêmes arguments en tentant de les rendre plus digestes avec une forme outrancière. C'est un film à oublier, même les passionnés d'histoire pourraient ne pas y trouver leur compte. compte. Toutefois, le couple que forment Brian Cox et Miranda Richardson parviendrait presque à nous le rendre agréable. À noter que le scénario est écrit par une historienne, et c'est peut-être ça qui pose problème. Peut-être que le film aurait gagné à être écrit à plusieurs mains. Voilà, ainsi s'achève Cinérama.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, la semaine prochaine,
eh bien, moi, je parlerai de A Serious Game.
Et moi, du jour d'après, le nouveau film d'Ong Sang-soo et le vénérable W de Barbet Schroeder.
Et puis, on aura l'interview de Cédric Lapiche pour le film Ce qui nous lie.
À la semaine prochaine.